Et vous voulez comprendre?
Ah, oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps.
Donnez-moi la force de comprendre, car ces visions me semblent.
Mais il y a un jeune de 16 ans qui a compris bien des choses, lui.
Oui.
C'est un jeune Canadien, d'ailleurs,
oui,
qui a
absolument.
Fait une découverte exceptionnelle.
Tout à fait. C'est un jeune Ontarien qui s'appelle Sanjeev Kohli. J'espère que je prononce son nom comme il faut. Qui, essentiellement, partage son temps entre son école secondaire, bien entendu, et l'Université de Waterloo, pardon, en Ontario. Donc, il travaille autant à l'école que dans un laboratoire pour développer son projet, finalement.
Déjà à 16 ans, qu'il soit à l'université, c'est assez exceptionnel.
Oui, c'est ça. Donc, lui, vraiment, il fait... en fait, il n'est pas inscrit à l'université, mais il y a un mentor là-bas qui le coach dans son projet et tout ça. Un peu comme quand on a des gens ici aux Expos Sciences qui vont se trouver un prof d'université qui va les aider dans un laboratoire pour leur projet.
Donc, parce qu'on voit qu'ils ont un potentiel, disons.
C'est
élevé.
Ça, évidemment, oui. Parce que le chercheur, lui, de laboratoire, il se dit pas, ben, ouais, non, ça me donnera rien de faire ça. Il voit, ah oui, il y a peut-être quelque chose de très intéressant. Et dans mon labo, j'ai les équipements, j'ai les techniques, j'ai développé l'expérimentation pour pouvoir peut-être répondre à cette question-là. Donc oui, je vais l'accueillir à raison de, je ne sais pas moi, un été ou peu importe, là, ça varie. Donc heureusement d'ailleurs qu'il y a des chercheurs qui font ça parce que ça sert aussi à générer l'intérêt chez les jeunes là, et créer cette relève-là dont on va en avoir toujours besoin de cette relève-là. Hein? On en a besoin. Alors dans ce cas-ci, ben on a un jeune qui a été interpellé par un cancer qui avait été diagnostiqué chez un de ses oncles. Et donc, il a vécu ça et il a surtout vu à quel point ça s'accompagnait de souffrances, de douleurs, d'effets secondaires et tout ça.
Puis c'est les traitements.
Exactement. Ouais. Donc, avec les traitements plus traditionnels, donc ceux qui sont en cours actuellement. Et lui, il s'est dit, ben, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir avoir un traitement qui est peut-être plus efficace, peut-être moins d'effets secondaires,
moins
peut-être
invasif.
Moins douloureux, exactement. Donc ça, c'était son idée de base. Alors il a développé il a utilisé de la nanotechnologie pour essentiellement faire un peu ce dont on s'est parlé il y a quoi, deux semaines maintenant. Faire des espèces de livraisons à domicile directement dans les cellules cancéreuses de médicaments ciblés. Parce que le problème qu'on a bien souvent avec certains agents de chimiothérapie, c'est que ben tout y passe pas mal. Donc même des cellules saines peuvent être affectées.
C'est distribué également dans le corps.
Exactement. Et là, on se dit, on fait un traitement choc, on va détruire la tumeur, puis après ça, on va faire pour le mieux avec les cellules saines, donc le reste de l'organisme, bien entendu. Parce qu'en fait, l'urgence, c'est de se débarrasser de la tumeur, puis après, on va s'occuper du reste. Alors, lui, ben, il a utilisé de la nanotechnologie, pour aller livrer directement aux cellules cancéreuses le médicament approprié. Et il a fait ses tests déjà au niveau de cultures cellulaires, de cellules provenant de tumeurs de cancer du côlon, cancer du sein et cancer des poumons. Donc ça, c'est ce qu'il a testé. Dans les trois cas, sa technique est efficace, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Donc ça marche. Il réussit à tuer ces cellules cancéreuses-là avec la technique là, qui est en train de peaufiner. Mm-hmm. Donc ça, c'est déjà très, très bien. Son prof à l'université, parce que ça, c'est pas si nouveau que ça, l'idée d'aller livrer des médicaments de façon ciblée vers les cellules. Le prof qui le supervise, si on veut, qui lui donne un coup de main là-dedans, lui, ce qui l'impressionne, c'est l'algorithme que le jeune a développé, donc a programmé lui-même, pour être capable d'identifier les cellules à cibler. Donc déjà là, il voit un intérêt, donc une nouveauté, une innovation. Là,
dans
ici,
quoi?
Là.
Dans la facilité d'aller chercher la cellule?
Ben, l'algorithme, c'est vraiment un programme, un logiciel informatique qui a été créé pour être capable d'identifier ça, c'est une cellule à cibler, puis ça, c'est pas une cellule à cibler, et ainsi de suite. Donc on l'a déterminé pour ces petits vecteurs de médicaments-là, où ils doivent aller et où ils doivent pas aller finalement. Et ça, lui, donc, vois-tu, c'est vraiment de la nanotechnologie pour la livraison du médicament, mais c'est aussi un peu de l'intelligence artificielle et de l'informatique pour pouvoir dire à ces petits vecteurs-là où est-ce qu'on s'en va.
Tu sais, ce qui est fascinant, c'est que les chercheurs d'aujourd'hui et de demain devront avoir des compétences et doivent déjà avoir des compétences tant en informatique
oui.
que dans le domaine médical.
Ou d'avoir, d'imaginer des collaborations entre laboratoires qui, autrefois, n'étaient peut-être pas imaginables. Donc, par exemple, tous ceux qui travaillent en intelligence artificielle devraient collaborer encore plus avec le temps qui avance avec des laboratoires qui étaient purement des laboratoires de recherche biomédicale, par exemple. C'est-à-dire, ben, ça nous prend quelqu'un. Est-ce qu'il y a un expert qui pourrait venir un certain temps dans notre labo pour placer, disons, toutes nos algorithmes, installer des logiciels d'intelligence artificielle pour être capable de nous aider à spotter tel ou tel problème dans un modèle animal, par exemple. Donc, il y a vraiment ça là, qui se profile.
Qui est en train de s'installer.
Et tant mieux, mieux, parce que dans le fond, tout le monde devrait se parler dans la communauté scientifique pour être capable de régler des problématiques qui sont vraiment graves. Alors ici, on parle du cancer. Sa technique, déjà, lui, il l'annonce comme étant 10 fois plus rapide, 7 fois moins coûteuse que les traitements traditionnels et 5 fois plus efficace parce qu'on cible directement les cellules à détruire. Déjà, il a gagné le premier prix dans un concours organisé par la compagnie pharmaceutique Sanofi. Donc, déjà, on récompense ses efforts. Et il vient aussi de revenir d'un concours en biotechnologie à Boston. Et il avait aussi gagné un prix dans le cadre de ce concours-là.
Écoute,
donc c'est...
il y a 16 ans. Qu'est-ce qu'il attend, ce jeune garçon-là?
Ben, lui, en fait, il sait, en fait, la mauvaise nouvelle pour le commun des mortels est une bonne nouvelle pour lui. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que là, il vient de faire ça sur des cultures cellulaires. Donc, la prochaine étape pour lui, c'est de tester ça dans des organismes vivants, donc des modèles animaux, par exemple des poissons zèbres ou des souris ou ainsi de suite. Les tests chez les humains, on les attend dans 10 ans à peu près. Hein? Faut pas s'attendre à des tests cliniques chez les humains avant 10 ans. Il y a plein de choses à régler d'ici là. Donc, on peut s'attendre à ce que le temps que ces tests cliniques soient faits, que tout soit approuvé et tout ça, peut-être c'est un traitement qu'on va avoir dans 20 ans. On le sait pas. Mais ce que ça fait pour lui, c'est qu'essentiellement, lui, en poursuivant ses études, en allant à l'université,
il peut développer.
En faisant son doctorat, son post-doctorat, lui, il sait déjà qu'il va vouloir peaufiner tout ça. Ça va déjà être le centre de son intérêt et de son attention pendant ses études. Donc, c'est ça qui l'atteint essentiellement, de lui-même travailler sur sa propre idée, son propre travail, son propre projet pour pouvoir le développer jusqu'à la fine pointe là, de ce qu'on,
vraiment
ce qu'on
fascinant,
peut s'attendre.
Vraiment, vraiment fascinant.
Vraiment.
Bon, il y a une découverte importante qui a été faite sur Mars aussi, Martin.
Oui, absolument. Et juste une mini-phrase avant de passer à cette découverte-là. À Génial cette semaine, donc je disais tantôt, on a tourné, puis on tourne souvent avec des jeunes qui font des projets comme ça.
Ouais.
Moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est de voir à quel point les jeunes, là, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, là, ils s'intéressent beaucoup au bien commun, à l'intérêt de la population
en
général.
À l'environnement,
ben,
à la santé.
C'est ça, ici, traiter le cancer. Il y a quelqu'un qui, au festival Eureka, qui nous parlait de développer un système pour ne pas oublier son bébé dans la voiture, et ainsi de suite. Donc, les jeunes sont pas mal plus allumés sur ce qui se passe dans la société que ce qu'on pourrait penser.
Plus sensible.
Voilà. Plus sensible, exactement.
Bon, il s'est passé quoi sur Mars?
Alors, sur Mars, bon, lorsqu'on fait de l'exploration spatiale, on entend souvent dire, ben, la première chose qu'on essaie de voir sur d'autres corps célestes, c'est la présence d'eau. Hein? Parce que si on veut identifier la possibilité que la
vie
ait existé ou existe encore sur une autre planète, sur une autre structure céleste, ben, il faut d'abord trouver de l'eau dessus. Hein? Ça, c'est la première chose. Et non seulement il faut trouver de l'eau dessus, mais il faudrait la trouver sous une forme liquide. Donc, la planète doit être en orbite autour de son étoile, mais à une distance critique qui permet à la température sur cette planète-là de ne pas être trop chaude. Et là, toute l'eau devient de la vapeur d'eau, ce qui n'est pas utile pour la vie. Ni trop froide, puis ça soit de la glace. Donc, il y a vraiment une distance critique pour chacune de ces planètes-là. Et ça, on entend parler pas mal hein, dans les nouvelles. Et par exemple, on sait depuis un certain temps que on en a trouvé de l'eau sur Mars. Donc, notre voisine, juste à côté, où on espère se rendre dans quoi, une vingtaine d'années à peu près, on a vu de l'eau dessus. Mais là, ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Parce que si on ne respecte pas ce critère-là, on peut même pas s'imaginer de la vie, là, hein, avec notre conception de ce qui est la vie. Mais la deuxième chose, et c'est ça qu'on vient de découvrir sur Mars, c'est y a-tu les blocs de construction là, pour la vie? Donc, est-ce qu'il y a des molécules à base de carbone et d'hydrogène? Parce que c'est comme ça que la vie est faite sur la Terre. Ce sont des molécules à base de carbone et d'hydrogène qui permettent permettent d'avoir de la vie, d'avoir
donc
le vivant.
Donc, aux plantes de pousser, aux humains de respirer.
Tout ça, on est tout à base de carbone. Ouais, ouais. On est des êtres carbonés. Là. C'est pour ça que le fameux pétrole, ben c'est des combustibles fossiles. C'est de la matière organique qui s'est décomposée pour nous donner une source de carbone qui forme un bon carburant, qui va former des bons solvants, et ainsi de suite. Le carbone, c'est vraiment le centre de tout ce qu'on connaît. Donc, sur Mars, le robot qui présentement se promène dessus depuis quelques années, le robot Curiosity, fait des prélèvements de sol. Et là, avec toutes sortes de petits laboratoires intégrés à même le robot, il a identifié des molécules organiques, ce qui est le deuxième critère. Donc, on va mettre un petit check à côté de la deuxième critère. Donc, on voit des molécules à base de carbone et d'hydrogène sur la planète
Mais
Mars.
Mais s'il y en a un peu, ça veut dire qu'il peut y en avoir partout?
Qu'il peut y en avoir partout. Qu'il peut surtout y en avoir déjà eu de la vie. En fait, ce qui est étrange avec Mars, c'est que toutes les conditions semblent réunies pour envisager qu'il y a eu de la vie sur Mars. Mais de toute évidence, il y a quelque chose qui a changé. On ne sait pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les conditions ne soient plus réunies sur Mars pour qu'il y ait de la vie? Et c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier Mars, être capable de savoir qu'est-ce qui a changé. Et y a-t-il des leçons là-dedans qu'on devrait retenir pour notre planète à nous, pour éviter que la même situation se présente?
Okay, donc c'est pas tant pour aller l'habiter un jour.
Non, ben si on l'habite un jour, ben c'est ça. Là, on va un peu amener avec nous autres, notre technologie à nous autres, pour être capable de vivre dessus, d'être capable d'utiliser ce qu'on trouve sur Mars. Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser le sol de Mars pour fabriquer des carburants et permettre à des vaisseaux de nous ramener les astronautes ici sur Terre? C'est des choses qu'on est en train d'envisager.
Bon, Martin, je vois sur ta liste de sujets le titre « Reprogrammer des souvenirs traumatisants ». Est-ce que c'est dans le but de traiter des gens qui ont vécu un choc post-traumatique?
Exactement. Ouais. Exactement ça. Parce que présentement, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme, donc qui a ancré dans son cerveau des souvenirs qui sont traumatisants. Mais lorsqu'on veut éviter des problèmes de maladie mentale qui en découlent, par exemple,
la dépression,
choc post-traumatique avec tout ce que ça implique et tout ça, violence et tout ça, les thérapies qu'on utilise actuellement sont des thérapies par atténuation. Donc, on t'expose à des degrés différents, à ces stimuli qui sont épeurants pour toi, puis on essaie de te désensibiliser à ça. Mais là, ce que des chercheurs se sont rendus compte, c'est qu'ils ont identifié les neurones qui sont impliqués dans le stockage de ces souvenirs traumatisants-là. Ils se sont même rendus compte que ce sont les mêmes neurones qu'on stimule lorsqu'on essaie de désensibiliser quelqu'un. Et non seulement c'est ça, mais en plus, si on excite ces neurones-là pendant la phase de désensibilisation, la désensibilisation est encore meilleure.
Très intéressant.
Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, tu dis, parfait, enfin, on identifie une vraie cible dans le cerveau. Donc, si quelqu'un a eu un choc post-traumatique, par exemple, un vétéran d'une guerre quelconque qui revient au pays, et tu diagnostiques ça, tu pourrais peut-être stimuler de façon ciblée ces neurones-là pendant la thérapie de désensibilisation, et tu pourrais peut-être avoir un pas mal meilleur pronostic. Donc, c'est une excellente nouvelle, cette découverte-là.
Merci beaucoup, Martin.
Bonne
et
semaine.
Bonne fête des pères.
Ah, t'es fine. Ben oui, j'ai trois enfants. Donc oui, ça me concerne.
À la semaine prochaine.
Voilà, salut.